On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. C'est l'invité de 11h et quelques. Nous sommes mardi 2 novembre et tout va bien. François Castiello a une gueule, comme on disait de certains comédiens dans les années 50. Une gueule, c'était alors une personnalité affichée, un caractère trempé. Aujourd'hui, où le lys fait fureur, les artistes qui nous offrent leurs aspérités, leur vie accrochée à la peau, ça fait du bien. Sa vie, elle court sous ses doigts, sur les touches de l'accordéon avec lequel il fait corps. Elle court dans ses cordes vocales qui viennent vous creuser les entrailles. François Castiello est musicien, chanteur, compositeur, arrangeur et un sacré passeur de frissons. Bonjour François.
Bonjour Sylvie.
Et bienvenue.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli. Je m'ai élevé.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors François, dans ta bio, on lit... Maçon ou musicien, il n'a pas d'autre choix, le fils d'émigré italien. Mes mains ont choisi l'accordéon et mon corps l'a épousé. Alors, c'est une très jolie phrase.
Oui.
Mais immigré d'italien, né en France ou
arrivé déjà grand ? Né en France, oui. Non, de parents arrivés fraîchement en France. Et voilà, moi j'arrive là-dessus, donc né en France, dans les quartiers italiens de Fontenay-sous-Bois, autour de Paris, pour ceux qui connaissent Cavada ou voilà, un petit peu ces Italiens-là, l'Hérital, voilà, dans ces coins-là. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, le choix c'était ça. Pour nous, c'était soit être maçon comme nos parents, comme nos oncles, parce qu'ils étaient tous comme ça. Ils sont arrivés en France aussi pour ça, on les a fait venir pour ça à l'époque. Ou soit prendre une autre voie. Et voilà, cette voie-là, elle s'est offerte à moi et j'en ai profité. Quoique j'aimais bien aussi aller travailler dans le bâtiment, parce que mon père m'avait amené depuis tout môme, où on était là. C'est aussi une ambiance qu'il faut connaître, quoi. Mais il y a la musique qui m'a appelé, qui avait une voix un peu plus forte que celle de mon père.
Et c'était l'Italie, quelle Italie ?
Alors c'était du côté de mon père, c'était l'Italie de Naples, vraiment Naples dans le milieu populaire. Et ma mère, c'était plutôt l'Emilia Romana, du côté de Piacenza, Bologne, tout ça, dans les montagnes, une montagnarde qui vivait dans un petit patelin. Et puis ils se sont rencontrés en France les deux et je suis très vite arrivé. Je suis déjà un mix entre Italie du Sud, Italie du Nord, ce qui n'est pas évident là-bas parce qu'ils ne se rencontrent pas.
Oui,
en général, en Italie, ils ne se rencontrent pas.
Et puis ils ne se parlent pas nécessairement toujours
bien. Non, ils n'ont pas toujours la même langue non plus. Et puis voilà, il y a des histoires qui font qu'ils s'aiment plus ou moins bien. Mais là, ils se sont rencontrés en France. Donc en France, apparemment, cette barrière du Nord et du Sud avait sauté parce qu'ils ont pu se rencontrer et avoir des enfants.
C'est l'exil qui recentre peut-être.
Oui, peut-être le fait de d'un seul coup ils sont italiens, ils sont plus ni napolitains ni bolognais ni piacentini, ils deviennent immigrés italiens en France et puis ils essayent d'être français surtout parce qu'ils savaient qu'ils voulaient rester en France, donc ils voulaient s'implanter en France, ils n'avaient pas du tout idée de retourner là-bas. Donc voilà, ça fait des histoires aussi pour les enfants qui sont encore différentes, quoi.
Cette musique, cet accordéon et cette musique, c'est venu. Ça a été un choix, même si j'ai fait le reste aussi. Il y avait de la musique dans la famille.
Il y avait pas trop de musique. Il y avait mon père qui chantait quand même, parce que les Napolitains chantent. Ils chantent aussi dans le Nord, mais les Napolitains chantent vraiment beaucoup, quoi. Et il avait un petit accordéon pour se donner la note. C'était pas vraiment quelqu'un qui jouait de l'accordéon, mais il avait pour se donner la note, pour chanter juste. Enfin bon, il avait pris l'habitude de suivre quelques notes à l'accordéon. Et je crois que c'est ça qui m'a fait craquer, parce que très vite, moi j'ai eu un accordéon à 4 ans, pour dire l'âge. Et après, ça a été, ça m'a plus lâché. C'est comme si l'accordéon m'avait sauté dessus quelque part. Et puis, il y a une route qui s'est ouverte pour moi. Bon, je suis autodidacte, mais j'ai passé tellement de temps à jouer. Après, quand j'ai grandi un petit peu, j'ai commencé à rencontrer des gens, à partir de chez moi, à rencontrer des gens qui m'ont donné leur culture, qui m'ont fait transmettre leur musique, leur passion. Voilà, il y a eu quelque chose avec cet instrument.
Mais quand tu dis, tu l'as eu à 4 ans, c'était un choix de ta part ou ça a été...
C'était un,
une demande. Un cadeau.
C'était une demande. Ils voyaient que j'avais envie d'avoir un. Donc, ils m'avaient acheté un petit accordéon. Puis après, ils ont vu que je passais des heures dessus. Et puis que le reste m'intéressait de moins en moins. Et donc, je suis passé à la taille supérieure. J'ai des photos où j'ai l'accordéon qui m'arrive. Des gros accordéons qui m'arrivent au-dessus du nez. On voit juste mes yeux. Enfin, voilà. Quoi, ça a commencé comme ça. Puis ça m'a plus lâché. J'ai eu de la chance de trouver cet instrument avec lequel je fais toute ma vie. Hein. Après, j'ai jamais arrêté. Il y a une route qui s'est tracée, là, qui est venue devant moi, et je l'ai prise tout simplement.
Il y a des frères et sœurs.
Il y a trois sœurs. J'ai une sœur qui est mezzo-soprane. Donc elle a fait sa carrière aussi, fait sa carrière en tant que mezzo-soprane. Mmh. Et puis j'ai deux autres sœurs, elles, qui sont parties aux États-Unis, parce que quand on commence à immigrer dans une famille, il y a toujours des graines qui continuent à avoir envie de partir à droite à gauche. C'est normal, quoi. Donc voilà.
Si la sœur fait aussi et aussi dans la musique, c'est quand même peut-être pas tout à fait pour rien. Malgré tout, il y a effectivement cette chose-là, cette espèce de fil rouge qui se balade dans la famille. On a parlé d'accordéon, mais le chant, parce que toi, tu fais l'un et l'autre. Oui, oui. Le chant est venu en même temps ou c'est venu après?
Le chant est venu un peu après, parce que voilà, quand j'étais môme, je ne chantais pas. J'ai commencé à chanter, je devais avoir 18, 19 ans, quoi, quand la voix a commencé à se faire. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais peut-être pas des facilités, mais en tout cas, j'aimais ça. J'aimais chanter, donc j'ai commencé à chanter. Puis après, j'ai rencontré un groupe avec qui on a chanté beaucoup, qui s'appelait, c'est le groupe Bratsch. Mmh. Et là, on a vraiment chanté beaucoup ensemble. Enfin voilà, la voix, c'est venu aussi après. C'était une surprise parce que je ne m'y attendais pas. J'en avais pas franchement besoin, donc je n'avais pas vraiment sollicité ça en moi, quoi. Moi, j'aimais jouer. Et puis un jour, je me suis mis à chanter et puis j'ai vu que ça sortait et puis que ça prenait du plaisir. Et puis, voilà, après, c'est un engrenage qui fait que on commence à être accro à quelque chose et puis c'est comme tout, quoi.
L'accordéon, tu dis, ça commence avec les balles?
Alors oui, l'accordéon, ça commence avec...
L'accordéon et peut-être le chant aussi, finalement.
Ouais, non, chant est venu après. Ça a vraiment été les mariages, les communions. Là, j'avais... 13, 14, 15 ans, où on a commencé à savoir que je jouais de l'accordéon et que je connaissais ce répertoire pour faire danser les vieux, entre guillemets, hein, qui étaient plus jeunes que moi maintenant peut-être. Mais enfin bon, j'avais ce répertoire-là pour faire danser les vieux, donc, parce que j'avais appris sur des disques qu'il y avait à la maison. Il y avait très peu de disques, mais le peu de disques qu'il y avait à la maison, je les faisais tourner énormément et puis j'essayais de refaire la même chose avec mon accordéon, quoi, obstinément. Et donc au bout d'un moment, j'ai eu un répertoire pour faire danser ces vieux de l'époque qui aimaient danser la valse, le tango, le passo doble, le boléro, enfin toutes ces choses-là. C'était la mode de l'époque, vraiment. Donc ils venaient me chercher pour faire des communions, des mariages, des soirées. Voilà, ça a commencé comme
musette
ça.
Musette aussi. Enfin,
ouais, oui, c'était musette. C'était les balles musettes. Hein. Et ils venaient me chercher le week-end. Puis après, des musiciens plus âgés qui savaient que moi je jouais, donc qui étaient des vieux déjà de 35 ou 40 ans, qui venaient me chercher, qui demandaient à mon père s'ils pouvaient
t'emmener dans leur
voilà, m'emmener dans leur truc. Ouais, d'accord, faut le rappeler. Après, ok, ben il me ramenait après, puis voilà, c'est parti comme ça, où j'ai commencé à jouer beaucoup le week-end, sans vraiment me rendre compte de ce qui se passait, parce que bon, moi j'étais, j'avais ce répertoire-là, voilà, ça se faisait, je devais avoir, et puis quand on est jeune, on a une bonne gueule aussi pour jouer de l'accordéon, peut-être aussi, quoi. Les vieux, ils profitent des jeunes, c'est normal, je le fais maintenant, vous inquiétez pas, je me venge. Voilà, en tout cas, voilà, ma carrière a démarré comme ça. Puis après, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette route qui était devant moi où j'ai eu simplement qui a marché dessus, quoi. C'était là, donc je me suis laissé porter aussi par tout ça.
Ah, il y a une évidence qui s'est imposée.
Voilà,
s'est imposée
c'est ça. C'était, je sais pas, la chance, ma bonne étoile, je ne sais pas ce que ça a été, mais en tout cas, j'ai jamais manqué d'endroit pour jouer. J'ai toujours eu envie, en plus, cette passion, elle ne m'a jamais quitté. Après, j'ai rencontré d'autres musiques, hein, j'ai rencontré toutes les musiques d'Europe centrale.
On va y venir, bien sûr, parce qu'on ne peut pas, voilà, c'est complètement incontournable. Mais par rapport à cet apprentissage où tu disais, ben, je suis totalement, voilà, moi, j'ai appris par moi-même, j'ai appris en écoutant des disques, etc. Est-ce que après avoir passé ce palier, est-ce que tu as eu envie d'apprendre des notes, est-ce que tu as été, tu as été sur la musique et tu dis que le jazz, par exemple, a été la découverte de l'improvisation avec le jazz, ça a été une espèce de révélation. C'est quoi, c'est la liberté que ça donnait ou c'est le droit?
Ouais.
se donner le droit d'expérimenter ?
Le truc, c'est que, je me rappelle un peu de l'époque, c'est que déjà j'improvisais, mais je ne savais pas que j'improvisais. Comme je suis autodidacte, des fois les morceaux, je les jouais un peu comme je voulais. Il suffisait que les gens qui en face de moi reconnaissent un peu les... En tout cas, j'avais le rythme, mais la mélodie, des fois, je la transformais. Mmh. Bon, j'étais un gamin, je m'amusais avec ça. Il suffisait que les gens en face reconnaissent la mélodie, moi ça me suffisait. Après, voilà, des fois ça les faisait un peu marrer où je partais et tout, mais moi j'aimais déjà partir un petit peu, parce que je sentais d'autres voix dans le morceau, mais je savais pas que j'improvisais, je connaissais pas du tout ce mot-là. Voilà, pour moi, quand on est autodidacte, c'est fou le nombre de choses qu'on sait, puis c'est fou le nombre de choses qu'on sait pas non plus, quoi. Parce qu'on taille que dans ce qu'on a besoin, puis dans nos capacités aussi, quoi. On va pas, on regarde pas trop autour, il y a déjà beaucoup à faire dans ce qu'on ressent. Et après, j'ai commencé à rencontrer des musiciens de jazz, et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de... Ils m'ont expliqué ce que c'était que l'improvisation, et je me suis aperçu que c'était vraiment un truc avec lequel j'allais être très à l'aise, parce que c'est ce que je faisais déjà depuis longtemps, sans m'en rendre
compte. Bon sang, mais c'est bien sûr.
Bah oui, parce que je m'amusais avec mon instrument, donc à partir du moment où on s'amuse avec un instrument, c'est on improvise, on crée un univers. Alors au début, bah, il est tout petit, puis après, on commence à aménager des choses à l'intérieur et tout. Et c'est là aussi que j'ai eu envie de connaître les notes, le solfège et tout, parce que je me suis aperçu que pour jouer avec des musiciens de jazz, il fallait quand même que j'ai un niveau de solfège. Voilà, eux, ils me demandaient ça. Ils me demandaient de comprendre vite ce qu'ils me demandaient musicalement. Donc là, j'ai passé quand même du temps à travailler ça. Et puis surtout, voilà, il y a un truc aussi qui m'est arrivé, c'est que je suis compositeur. J'ai un truc avec la composition, alors ça, je ne le savais pas du tout. Ça, c'est en travaillant sur les notes, justement, que je me suis aperçu, ouais, tain, j'aime bien écrire, j'ai des idées. Voilà, il y a aussi ça qui est arrivé dans ma vie, qui était complètement nouveau. Et le chant est arrivé très peu après, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc voilà, là, je suis quand même rentré dans le solfège et dans la musique, parce que, à un moment, si on veut transmettre, si on veut jouer avec d'autres, c'est cool de jouer tout seul, mais la musique, c'est beau de la partager aussi avec d'autres musiciens ou musiciennes. C'est ça qui est, c'est ça l'aboutissement. Puis après, de donner tout ça au public, d'envoyer tout ça sur le public. Là, ça devient quelque chose où vraiment, moi, je kiffe beaucoup. Donc, si je veux jouer avec les autres, très vite, je me suis aperçu que si je voulais jouer avec les autres, il fallait que j'apprenne la musique, que je comprenne les partitions qu'ils allaient m'amener, que je comprenne de quoi ils parlaient, voilà, que je ne les ralentisse pas, en tout cas. Donc voilà, j'ai passé du temps aussi à travailler ça. Il y a quelques personnes qui m'ont aidé à l'époque, je les remercie encore, parce que ce n'était pas évident. Je ne connaissais vraiment rien, je jouais des choses, mais je ne savais pas où je mettais mes doigts. Je ne connaissais pas les notes, je ne connaissais rien du tout, quoi, un autodidacte. Donc j'ai fait cet effort-là, je ne regrette pas aujourd'hui, parce que ça m'a permis d'écrire beaucoup de morceaux, d'écrire beaucoup de musique, de rencontrer beaucoup de gens avec qui j'ai pu partager la musique, leur faire jouer ce que j'entendais aussi. Enfin voilà, c'est ce chemin-là m'a amené aussi à rentrer dans le solfège et l'harmonie et tout ça, quoi.
Tu as parlé tout à l'heure, voilà, tu parles beaucoup de jouer avec les autres, d'être... tu as parlé à un moment, quand on parlait de maçon ou de musicien, tu disais, mais c'est important aussi de savoir de faire avec, finalement, parce que c'est aussi faire avec. Il y a une espèce de fraternité, c'est avec les frères d'armes, les frères et sœurs d'armes, de musique, pour... Est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose qui fait sens, cette fraternité humaine qui te porte? Et alors, bon, évidemment, j'arrive avec mes gros sabots, puisque le premier titre qu'on va écouter, c'est un titre qui est extrait du dernier album de La 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 Napoli, qui est un des projets dans lesquels tu œuvres. Et qui alors l'album s'appelle Cavalluccio, et c'est le titre que j'ai choisi, c'est Fratelli. Alors pourquoi Fratelli? Ben parce qu'en plus c'est le dernier titre de la tracklist, donc bon, voilà pourquoi on commence par là. Bah, simplement, pour moi, la Napoli, c'est avant tout un groupe, c'est une bande de musiciens qui s'inventent un univers musical bien à eux, et une espèce de sorte de cœur d'homme totalement baroque, et qui assène la fraternité comme seule bannière. Est-ce que ça te convient si je dis ça?
Oui, complètement, parce que bon, déjà le partage de la musique, très vite on se rend compte qu'il y a des liens qui se forment, qui sont peut-être d'autres liens qui se formeraient en faisant du sport ou en buvant des bières dans un bar. Enfin, tout ça, j'aime bien aussi. Hein. Mais le fait de jouer ensemble de la musique, ça amène quelque chose où, qui se passe de mots et on apprend à aimer la personnalité de l'autre à travers de la manière dont il joue, de la manière aussi où il va amener sa goutte d'eau ou sa parole dans un morceau qu'on est en train de jouer. Et donc là, il y a des liens qui se créent, qui sont forts, parce qu'il y a des émotions aussi qui passent entre nous dans la musique. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qu'on cherche. Donc oui, la notion de fraternité, elle est importante. Cette chanson, Fratelli, c'est une chanson que j'ai... si je peux en parler une
minute.
Voilà, c'est une chanson que j'ai écrite en 95, quand il y avait... c'était complètement sous une autre forme. Je la chantais, c'était beaucoup plus mélodique. Enfin, ça n'avait rien à voir. Je l'avais faite avec un groupe qui s'appelle Bratch, parce que on a arrêté de jouer ensemble. Et c'est une chanson que j'avais écrite à l'époque quand il y avait un pays qui s'appelait encore la Yougoslavie. Voilà, où j'avais là-bas des copains qui étaient des petits poètes comme vous et moi et qui ont commencé à recevoir des bombes, rentrer en guerre. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui leur arrivait. C'était des gens qui vivaient une vie complètement comme la nôtre. Hein. Et du jour au lendemain, il y a eu tous ces problèmes. Et moi, je n'avais pas du tout accès à eux. Je ne savais pas ce qu'ils devenaient. C'était des gens que j'aimais beaucoup, que j'avais rencontrés, que j'avais bien aimés. Ils ne voulaient pas perdre de vue, donc impossible de savoir. Donc à un moment, cette chanson, elle m'est sortie. J'avais juste envie de leur dire quelque chose. C'était ça. C'était cette chanson-là que j'avais envie de leur dire. Donc je l'ai faite, je l'ai chantée, je l'ai enregistrée, je l'ai diffusée. Maintenant, il y a plein de chorales qui la chantent sous la forme ancienne dont je la faisais. Mm-hmm. Et puis là, avec la poli, j'ai eu envie de la donner d'une manière beaucoup plus... parce que cette chanson, je la chante depuis des années. Et puis moi, je ne vois rien changer autour de moi. Je sais qu'une chanson ne va rien changer. Mais il faut quand même que je la chante. Mais voilà, la fraternité autour de moi, je la sens dans des tout petits endroits. Mais je la sens pas de moins en moins, mais je la sens pas plus qu'avant. Quoi. Il y a toujours un moment où voilà, on ferme notre porte parce qu'on peut être frère jusqu'à où ? Justement, c'est ça. C'est est-ce qu'on est frère jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas. Mais il y a un moment où je sens que les portes se ferment. Et donc cette chanson, je l'ai reprise avec la Napoli d'une manière beaucoup plus comme si c'était une manifestation, comme si c'était quelque chose de beaucoup plus scandé. Voilà, c'est plus ça que j'avais envie là de faire avec le public. Et les rares fois où j'ai pu le jouer en public, parce que bon, on a joué quand même un peu avec la Napoli ces derniers temps. Et ben le public reprend parce que en plus comme je le dis et je leur dis, je la scène. Donc voilà, ils reprennent les paroles avec moi et ça, c'est super. Voilà, ils sont comme ça avec moi. On manifeste pour la fraternité et ça, c'est cool. Dans un concert, moi, ça me fait du bien. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. Et puis, je sens tout le monde à la banane parce que ça fait du bien de faire dire des mots qui nous libèrent de quelque chose et de les crier ensemble. C'est ça aussi une manifestation. Et là, ça se fait dans un concert et c'est super. J'adore.
Alors moi, juste avant d'écouter ce Fratelli, j'ai eu la chance de... C'est vraiment une chance. C'était parce que c'était pendant un des confinements où vous étiez en résidence au Plein Théâtre et j'ai eu la chance donc, d'assister à ce concert alors qu'on était tous exsangues et qu'on était tous... Voilà, oui, oui. Et on se retrouvait enfin voilà, un tout petit comité, mais et ce morceau, c'était ça a été effectivement les larmes aux yeux quasiment, et en tous les cas des grands frissons et une espèce de communion qui était réelle. Donc on va écouter tout de suite Fratelli.
tutti fratelli, d'amore e di libertà. Siamo tutti fratelli, d'amore e di libertà.
C'était Fratelli de La 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 Napoli. Vous êtes bien installé dans l'invité de 11h et quelques sur Radio BLV. Et on est avec François Castiello. François, alors on reviendra à La 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 Napoli beaucoup plus. Voilà, on focusera sur La 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 Napoli un petit peu plus tard dans l'émission. Mais c'est vrai que ce morceau permet aussi d'avoir une, ben, je trouve, des couleurs. Il y a une espèce de condensé de couleurs de La 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 qui me plaisait bien de proposer en début. On a, depuis le début, on parle de, ben voilà, de ta manière d'arriver en musique, comme on peut dire. Et tu as parlé à plusieurs reprises de Bratsch. Mm-hmm. Bratsch, c'est vraiment ça a été vraiment la rencontre, le groupe qui a fait que le petit François accordéoniste est devenu, a pris toute son ampleur aussi. Mm-hmm. Bratsch, c'est combien? C'est 30 ans de
Bratsch, c'est
30 ans 30, de route
32 ans.
32 ans
32
de route.
Ans de route avec les copains Dan, Bruno, Pierre. Voilà, on est par Nano, on est parti, on s'est rencontrés dans des bars à Paris, hein. Voilà, il y a des Paris, ça peut servir aussi à ça. Il y a beaucoup d'artistes à Paris. Oui. On peut en rencontrer énormément. Il y a beaucoup d'endroits pour
jouer. Ça joue
beaucoup,
surtout.
Ça joue beaucoup tous les soirs. Il y a énormément de concerts entre Paris et région parisienne. Donc ça nous permet de nous rencontrer et puis de jouer. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça en jouant dans les bars. Et puis ça a accroché. Et puis on a fabriqué une musique ensemble qui était un petit peu qui venait où on mettait un petit peu toutes nos origines dedans. Voilà, il y a Dan, il était plus arménien. Il connaissait, il avait écouté la musique zigane quand il était môme. Moi, j'étais parti en Pologne quand j'avais 16 et 17 ans. Et j'avais entendu pour la première fois la musique zigane. Et j'étais complètement j'étais époustouflé. Je n'avais jamais entendu cette manière de jouer de ma vie. C'est surtout une manière de jouer. Mmh. Ce n'est pas trop la musique, c'est comment ça joue, quoi. Et ça, j'ai adoré. Donc, très librement, ça joue très librement, avec beaucoup de feeling, avec beaucoup d'émotions. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Puis c'est parti. Et puis... on a joué pendant quelques années ensemble, puis d'un seul coup, ben, on a touché le grand public. Ça s'est fait sans que nous, on change notre manière de jouer. Mm-hmm. Il y a le mur qui est tombé en 89-90, je crois, 1989-90. Et puis là, d'un seul coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des artistes aussi à l'Est, des peintres, des écrivains et des musiciens. Et nous, on était là, on était prêts, on avait travaillé sur ce matériel-là depuis déjà quelques années. Donc voilà, ça a pris feu, et puis voilà, on a fait une carrière qui a duré 30 ans, quoi. On a fait 4 fois le tour du monde, je crois, je sais plus, 2600 concerts, enfin, ça a été...
C'est énorme. Et énorme. Quand ça vient vite, finalement ?
Ben oui, c'est venu assez vite, parce que, voilà, on a joué quelques temps où les gens nous prenaient un petit peu, c'était une toute petite niche, on s'adressait à vraiment très peu de personnes qui comprenaient ce qu'on était en train de faire, on mélangeait du jazz avec la musique roumaine, de la musique grecque avec la musique arménienne, des chansons napolitaines avec un son grec derrière ou roumain, enfin voilà, c'est pas ce qu'on aimait, c'est ce qu'on était capable de faire ensemble, on n'a même pas réfléchi à ce qu'on aimait, quoi. On est capable de faire ça, on
prend du plaisir. Et c'était très nouveau à l'époque, du coup.
Ah ben, ça existait. Ça n'existait pas. La world music, entre guillemets, de cette manière-là, elle n'existait pas. Et c'est pour ça qu'on avait un tout petit public. Les gens n'étaient pas du tout à écouter ça. Ils se demandaient ce qu'on faisait comme musique. Ils accrochaient pas à moi, sauf les gens qui étaient curieux. Là. Parce que là, il fallait être curieux. Et puis d'un seul coup, voilà, du jour au lendemain, on se retrouve à l'Olympia, Casino de Paris, dans les grandes salles parisiennes, puis des tournées partout dans le monde. Et voilà, ça nous a donné envie de continuer, de se dire, ah ouais, mais non, mais finalement, là, OK, on joue entre nous, on aime bien ça, mais apparemment, le public aime ça aussi, parce que ça venait, le public était complètement ouvert à ça, tout était ouvert, les radios, les télés. Donc on a vraiment, avec Bratch, eu cette chance-là de fabriquer, sans s'en rendre compte, une musique qui plaise à beaucoup de gens, quoi. Donc ça a été une chance.
Ouais, c'est une chance. Carrément. C'est une chance. C'est facile de garder quand même son identité et de freiner des dérapages possibles éventuels.
Oui. Bah le truc c'est que quand ça a commencé à démarrer, j'avais 24, 25, 26 ans par là, et les autres ils avaient quand même 10 ans de plus que moi. Donc ils avaient c'est pas comme quand on a du succès à 18, 19, 20 ans où avec Bratch on est resté complètement producteur de notre musique. On n'a jamais été chercher des producteurs, on travaillait complètement différemment de ce qui se fait aujourd'hui. C'est nous qui financions tout. Finalement, on avait cet argent-là parce qu'on jouait beaucoup. On vendait à l'époque énormément d'albums. Il n'y avait pas encore Internet, etc., qui diffusait la musique. Donc, on vendait énormément d'albums et on servait de cet argent-là pour partir à l'Est. Parce que là-bas, ils n'avaient pas un rond, quoi. Donc, ils nous proposaient royalement l'équivalent de 400 euros à une équipe de 7 bonhommes pour faire 2000 bornes et puis aller faire un concert. Donc, ça ne le faisait pas du tout. Puis nous, on se disait, bon, on a de l'argent dans la caisse, on va y aller. Et puis quand on arrivait là-bas, c'était super parce que, ils avaient besoin de tout ça. Ils avaient besoin d'écouter autre chose de ce qu'ils écoutaient avant, les choses très académiques et tout. Nous, on arrivait, c'est pas qu'on détribuisait tout, mais on mélangeait tout. Des fois, c'était même free jazz complètement. On se barrait dans des trucs complètement barrés, quoi, justement. Et ça leur plaisait beaucoup. Et après, au bout d'un moment, ils nous rappelaient tous les ans. À la fin, on faisait, des tournées de 15-20 jours en Allemagne et en Allemagne de l'Est tous les jours. Parce qu'on avait aussi été au début. Quand le mur est tombé, on est allé les voir en leur disant, vous n'avez pas d'argent. Enfin, on ne disait rien. Le public ne savait pas. Ouais. Mais bon, on n'avait même pas de quoi se payer l'essence. De ce qu'ils nous donnaient, c'était juste l'essence pour y aller et même pas pour revenir. Donc nous, on finançait tout ça. Et voilà, c'est pour ça que ça a été aussi une histoire humaine, Bratch. C'est qu'on ne s'est pas cantonné à faire de la musique pour gagner du fric, c'est qu'on a fait de la musique aussi pour rencontrer des gens et puis la donner dans des endroits où c'était pas possible. Et même par la suite, quand on était très connus, on allait quand même jouer pour des petites assos en leur disant, vous dites rien forcément de ce que vous nous payez, mais on allait jouer pour des petites assos parce qu'on avait envie de ça, on avait envie d'avoir du public là très proche. Sinon, c'était des grandes salles de 2000, 3000 personnes où les gens étaient loin, on les sentait, mais c'était pas la même chose, quoi. Donc voilà, on a toujours, tout le long de notre carrière avec Bratch, on a gardé ça, et moi je suis vraiment content de l'avoir fait avec du recul en me disant, grâce à ça, on est resté les pieds sur terre. On ne s'est pas chopé la grosse tête à se mettre dans une bulle en se disant on est des génies, on a fait quelque chose d'incroyable. Non, on savait très bien que ce qui était arrivé, c'était juste qu'on s'était mis à jouer ensemble. Il n'y avait pas de recherche intellectuelle qui allait au-delà de ça. C'est que le fait de jouer, déjà, de nous éprouver du plaisir et des émotions, et après de les redonner au public, ça a été un gros, gros plaisir. En tout cas, quand c'est arrivé pour nous, c'était super. On s'est vraiment bien amusé, quoi.
Tu parlais de composition tout à l'heure en disant, découvrant les notes, j'ai découvert qu'en fait j'aimais composer, puis enfin voilà, ça m'amusait, puis c'était quelque chose que je portais en moi. Bratch, ça a été le début de la composition.
Oui, ça a commencé là. J'avais composé un petit peu avant, mais bon, c'était là, je me faisais plus la main, quoi, de comprendre un peu ce que je pouvais faire, aussi ce que j'avais envie de dire avec la composition. Et puis Bratsch, là, ça a commencé. Bratsch, on a commencé à... C'est là que je me suis rendu compte de la manière dont on pouvait travailler quand on est musicien autodidacte, c'est qu'on peut, et peut-être aussi musicien sortant du conservatoire, je ne sais pas, c'est qu'on peut prendre du vocabulaire. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de prendre du vocabulaire un peu partout. Parce que, par exemple, j'aime la musique roumaine, mais je ne jouerai jamais comme un musicien roumain. J'aime la musique bulgare, j'aime la musique grecque, etc. Bon, je suis assez boulimique dans ce que j'écoute et ce que j'écoutais beaucoup aussi. Mais je sais que jamais je jouerai comme ces musiciens-là. Mais par contre, de leur prendre quelques phrases, quelques mots, de prendre un vocabulaire et de commencer avec ce vocabulaire, de faire des phrases à moi, personnelles, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, c'est vraiment parti de là. À un moment, j'ai senti que j'avais dans mon dictionnaire musical assez de mots, assez de concepts pour pouvoir commencer à écrire des choses, même pour Bratsch. Donc, c'est comme ça que ça a commencé aussi. Et de me dire, ben voilà, je vais prendre tout ça et puis je vais m'en servir comme un écrivain va se servir des mots. Moi, je vais me servir des petites phrases que j'ai apprises d'un musicien roumain, d'un musicien bulgare, ou d'un musicien grec, d'un musicien arménien. Et puis d'essayer de voir ce que je peux faire avec, qui soit personnel, bien, et avec cette couleur-là. Et puis ça l'a fait, c'était magique. C'est parce que j'amenais ça avec Bratsch, on le jouait, ça le faisait complètement, ça restait dans notre couleur. Et, enfin voilà, c'est aussi une manière, de composer quand on est autodidacte. Voilà, c'est important d'avoir du vocabulaire.
C'est la base.
C'est la base pour pouvoir commencer à écrire.
Échanger.
Voilà, et ça, une fois que j'ai compris ça et que j'ai été capable de le mettre en note, là, il y a un truc qui s'est ouvert, qui dure encore là maintenant avec Lala. Puis j'ai fait d'autres expériences où j'écris les choses que je ressens. Et ça devient. C'est pas facile, c'est jamais facile, mais bah, je sais le faire maintenant, quoi.
Alors pour finir sur Bratsch, parce qu'effectivement, ça a été 32 ans de vie, on a eu la chance d'avoir Dan ici aussi.
Le père, Dan Gariger.
Il était de l'autre côté, il était là.
Le bon pote. Ouais.
Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est justement cette... voilà, Bratsch, l'histoire Bratsch est terminée, mais vous avez vos personnalités. Vous avez su garder, conserver vraiment vos personnalités et aller sur d'autres projets, sur de nouveaux projets et continuer. Et surtout, ce qui est extraordinaire, enfin, en tous les cas, chez les deux que je connais, si on peut dire qu'on se connaît, c'est ce sourire, c'est cette lumière que vous avez, que vous conservez en parlant de musique. Et on sent cette énergie, cette envie, ce plaisir, il est toujours là.
Ah ouais. Bah, je crois qu'on a là les années qu'on a passées justement avec Dan. Il était là, ça.
Il était là, voilà. Il était là. Alors, on est en train de montrer
la place où était Dan Garibian. Les années qu'on a passées avec Dan, ça a été des années, enfin pas qu'avec Dan, avec tout le groupe de Bratsch. Hein, ça a été des années qui ont été tellement nourrissantes que fatalement on a emmagasiné de quoi tenir longtemps. Parce que bon, on a compris des choses aussi. Voilà, on est arrivé quelque part où, avec Bratsch où ça nous a vraiment nourris pour des années après. Ça nous a donné vraiment des impulsions. Et d'ailleurs, Dan comme moi, on a joué avec des jeunes musiciens. Et ce n'est pas par hasard.
Bah, ce n'est pas par hasard. Son trio, c'est avec deux jeunes.
Lala, pour moi, c'est pareil. Ils sont tous, les gars de Lala, ils ont tous plus de 20 ans de moins que moi. Enfin, voilà, quoi. Et parce qu'on a compris aussi avec Dan que le meilleur moyen pour ne pas devenir un vieux con...
C'est secouer un peu par
les c'était qu'il y ait des jeunes autour de nous qui nous disent eh oh, ça c'était le monde d'avant, vieux. Maintenant, faut penser comme ça. Voilà, puis on a besoin de ça, on a besoin de cette jeunesse-là. On aurait pu très bien, Dan comme moi, repartir avec des musiciens de notre âge aussi, puis de notre carrière aussi. Parce que bon.
Refaire.
Voilà, alors que moi, j'en avais pas envie. Dan, il est plus reparti dans le répertoire de Bratsch, mais il a aussi transformé un petit peu sa vision musicale grâce à Antoine et à Benouche. Il est les deux musiciens qui sont avec lui, accordéon et guitare. Et moi, pareil, avec Lala, comme ils étaient plus jeunes que moi, ils m'ont... Et puis c'est ce que je voulais aussi, c'est qu'ils m'amènent leur jeunesse, qu'ils m'amènent leur vision du monde maintenant. Voilà. Et puis c'était pas forcément des gens qui habitaient à Paris. Moi, j'habitais à Paris pendant 50 ans. Quand je suis arrivé ici dans la Drôme, il a fallu que je me fasse une famille de musiciens, parce qu'un musicien tout seul, oui, il fait quelque chose. Je suis musicien soliste, mais bon, ça m'intéresse. Je fais les solos, j'adore, mais je ne peux pas faire que ma carrière là-dessus. J'ai pas assez de nourriture, je me nourris que de moi-même. J'ai besoin de me nourrir aussi des autres. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Julien, Nico, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Nomade. Et je suis allé les voir, je leur ai dit, voilà, j'ai un projet. Eux, ils me connaissaient depuis qu'ils étaient tout môme, fatalement, parce que ça, c'est pareil. Avec Bratch, on ne s'est pas rendu compte de la trace qu'on laissait. Parce que comme on était, producteurs nous-mêmes, on s'autoproduisait, on taillait notre route un peu comme des autistes. Mm-hmm. Et on ne s'est pas rendu compte
de tout ce qu'il y avait autour.
De tout ce qui s'est passé autour. Quand on s'en est rendu compte, on a eu un moment, on a eu un choc. On s'en est rendu compte bien plus tard, quoi, quand on a fêté nos 20 ou nos 25 ans, je ne sais plus, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes, des gens de la rue qui étaient à nous, Debout sur le Zinc, tous ces jeunes-là, ils avaient commencé la musique en nous écoutant, ils s'étaient fait la main sur nos morceaux, donc ils nous connaissaient par cœur, ils nous aimaient, quoi, alors que nous, on ne savait même pas qui ils étaient. Et c'est comme ça qu'on a fait un album qui s'appelle Plein du Monde avec Bratch, où il y avait Olivia Ruiz, il y avait La rue qui est à nous, Debout sur le Zinc, et puis j'en oublie plein, il y avait plein d'artistes avec nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de laisser un héritage. Et là, on a pris peur à un moment. On a eu peur un petit peu. On s'est dit, mais là, c'est une grosse responsabilité. Ce qu'on a fait, on a donné un truc à des jeunes, une nourriture pour commencer à jouer. Est-ce qu'on a bien fait et tout. On a quand même eu ce moment d'un peu, pas d'épouvante, mais un peu de peur en se disant, mais bon, est-ce qu'on est à la hauteur de ce que les gens pensent de nous ?
Il y a une responsabilité qui était un peu lourde sur les épaules.
D'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein. Moi, il y a plein d'accordéonistes qui ont commencé l'accordéon parce qu'ils m'ont vu jouer sur scène. Alors le look, le son, je ne sais pas. Et moi, ils viennent encore me voir maintenant. Moi, je leur dis, bon, pour rigoler, je leur dis, je suis désolé et tout. Je les prends dans les bras. Je dis, je suis désolé, excuse-moi. T'aurais jamais dû venir. Ça pèse lourd, c'est chiant. Tu vas être musicien toute ta vie. Tu vas galérer et tout. Bon, c'est pour rire, mais en tout cas, cette responsabilité, elle existe fatalement, quoi. Il faut l'endosser.
Alors on va continuer la balade quand même dans cet album Cavalluccio, le dernier album de La Napoli qui est sorti au mois de mars de cette année et qui commence à faire sa vie, voilà. On va continuer par ce titre, c'est La Danza. Oui. La Danza, c'est Rossini à la sauce La Napoli.
Voilà.
Alors pourquoi? Parce que ça fait partie d'un patrimoine italien élargi au monde.
Je crois que d'un seul coup, ça fait un moment que je voulais faire ça, presque depuis le début de La Napoli, parce que quand j'ai commencé La Napoli, maintenant ça va faire une dizaine d'années, j'avais commencé à mettre de côté un peu de ce que j'avais envie de faire avec, enfin d'essayer d'avoir une vision un peu de ce que j'allais pouvoir faire, parce que j'engageais quand même avec moi des musiciens, j'avais quand même une responsabilité de répertoire et tout. Et puis c'est pas venu tout de suite, on n'était pas prêt encore pour jouer ce morceau-là, parce que techniquement il n'est pas facile à jouer, ça va très vite, et puis après il faut une certaine énergie, mais pour moi c'est un morceau qui a toujours dégagé une énergie que j'aime. Et puis de penser que c'est un mec qui a écrit ça, je crois, au 16e siècle, où ça fait 300 ans que ça existe, ce morceau-là, j'aimerais bien, moi, dans ma vie, et ça, je suis peut-être un peu ambitieux ou présomptueux, mais j'aimerais bien qu'il y ait un morceau comme ça qui traverse les siècles, parce que c'est génial de se dire, ben voilà, un mec comme moi ou des mecs comme la Napoli, on a encore envie de jouer ce morceau-là, parce qu'il est magique, il est simple, il est magique. Il parle aux gens, moi je le vois, même les gens qui ne connaissent pas dans les concerts qu'on fait en ce moment, dès qu'on se met à jouer ce morceau-là, il y a une banane qui arrive, il y a un sourire, il y a une envie de participer au morceau. On sent que c'est aussi un challenge parce qu'on est à fond. Moi, je chante à fond la caisse. On est tous à fond là-dedans. Et voilà, il y a cette chose que j'ai pas trop transformé sa musique à Rossini. Bon, j'ai rajouté une batterie, j'ai retravaillé un petit peu quelques voix de contre-chant derrière, mais j'ai pas touché grand-chose. Et presque telle qu'elle, elle est encore complètement d'actualité, parce que ça danse dessus, ça rigole, et voilà, ouais. Il se passe quelque chose, et voilà, c'est pour ça, c'est magique, quoi. La musique est magique.
La transe du Vésuve est quand même bien là.
Exactement.
On va écouter tout de suite.
Thank you. forza al mare, mamma mia, si salterà. L'ore belle per danzare, c'è l'amore, mamma mia. Già la luna mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ore belle per danzare, c'è l'amore, mamma mia. Resti in danza, tonda, tonda, donne mie, venite qua. Un rason belliccio, quando a ciascuno toccherà. Finché il cielo brilla, la stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella, tutta notte danzerà. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Si salterà. Frinche, 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 frinche. Mamma mia, si salterà. Frinche, 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 frinche. Mamma mia, si salterà. La 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 la. Salta, gira, gira, ogni coppia cerchio. Già s'avanza e si ritira, alla saltatoria. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio. Già s'avanza e si ritira, alla saltatoria. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella. Con la rossa va seconda, con la scuota per la costata. Viva il balla, tonda, tonda, sono un re, sono un pascià. Il più bel piacere del mondo è la più bella carità. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Si salterà, frinche, 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 mamma mia, si salterà, frinche, 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 mamma mia, si salterà, la 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 la.
La danza, la version La 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 Napoli. Je suis sûre que Rossini se marre dans son... Parfois on dit, il se retourne dans sa tombe. Là, moi, je suis sûre qu'il se marre.
Il danse même, on va dire.
Voilà. Alors, on disait hors antenne que c'était aussi, c'était une façon de faire... Enfin, qu'il y avait un vrai lien, là, d'un seul coup, avec nos ancêtres.
Oui, oui.
Quand vous jouez ce morceau, mm-hmm. parce que c'est... je pense que quand Rossini a écrit ce morceau, en fait, nos anciens devaient danser la tarentelle pareil que maintenant. En fait.
Pareil, il devait y avoir la même énergie, parce que j'ai pas touché grand-chose dans ce morceau, en vrai. J'ai quand même travaillé dessus, mais je ne l'ai pas transformé comme je n'ai transformé d'autres. Et j'imagine très bien qu'à l'époque, quand ça se mettait à jouer, ça, l'ambiance qu'il devait y avoir dans la salle ou ce que ça devait procurer comme plaisir, comme joie, c'est exactement la même que maintenant, parce que c'est les êtres humains, c'est ça le fil,
oui.
Le fil qui se tend depuis...
Finalement.
C'est ça, c'est l'humain qui est là, c'est ça qui est important. Quoi. Ouais.
On a parlé de Bratsch, on a parlé on parle de La 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 Napoli, c'est ce qui t'habite, on va dire, maintenant. Mais il y a d'autres... tu portes d'autres projets aussi, et notamment un projet solo.
Oui.
Alors, est-ce que c'est parce qu'après Bratsch, justement, tu as eu besoin de te recentrer?
Oui, alors là...
De te retrouver?
Oui, non, mais alors le solo, il existe, il a existé pendant Bratsch. Il est né pendant Bratsch. Il est né, je devais avoir... on dit ça va faire un peu plus de 20 ans maintenant qu'il est né. J'ai eu envie, parce que moi j'ai une histoire avec mon accordéon, bon, j'ai une histoire avec les musiciens avec qui j'ai joué, mais cette histoire avec l'accordéon qui a commencé depuis que je suis môme, il y a quelque chose qui s'est développé, une musique qui s'est développée, une manière de jouer, un son. Et ce son-là, j'ai eu envie un jour, je ne trouvais plus la place pour le mettre ni dans Bratsch, ni dans d'autres mm-hmm. projets de jazz ou quoi. Et c'est comme ça que je me suis dit, maintenant il faut que je joue en solo. pour que je puisse développer tout ce côté-là avec le public, que je puisse développer ce côté-là de l'accordéon et du chant aussi, parce que je fais les deux, je chante et je joue. Et le solo, il est vraiment né de là. Il est né de ça, quoi. Il est né de cette envie, donc j'étais déjà avec Bratch, de continuer ma route avec mon accordéon, sans les autres musiciens, avec une musique à moi, vraiment de continuer cette route-là. J'ai senti que c'était le moment, quand j'avais une quarantaine d'années, de commencer à chercher un chemin pour le solo, et qui est venu petit à petit. J'ai fait un premier album, et puis ça n'a pas été facile au début, parce que c'est un solo, c'est jamais facile. On est tout seul sur scène, et puis voilà, il faut créer une ambiance, il faut avoir un contact avec le public. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent. Hein. Et donc, j'ai commencé ça, et puis je continue jusqu'à maintenant. Il y a des moments, je le lâche un petit peu quand j'ai des nouveaux projets qui me prennent beaucoup de temps, donc je lâche un peu le solo, mais je continue à le travailler. Enfin, je ne le travaille même pas, c'est parce que moi, je joue beaucoup aussi chez moi. Hein. C'est comme un besoin maintenant, c'est devenu vraiment un besoin, je suis accro à ça. Et il y a des choses qui se développent, et donc voilà, je fais des solos, j'ai pas joué qu'en France en solo, j'ai joué en Allemagne, en Autriche, je vais dans des festivals, dans des petits endroits, comme là je vais jouer à la médiathèque de Romans, j'adore. Le principe du solo, ce que j'aime, c'est pas jouer dans des grandes salles, c'est jouer dans des salles où les gens soient vraiment proches de moi. Donc je fais aussi pas mal de... J'en fais un peu moins en ce moment, j'ai lâché un peu, mais je faisais aussi des concerts chez l'habitant. Parce que ça rentre complètement dans cette démarche d'avoir vraiment les gens très proches, de créer quelque chose vraiment d'intime. Et là, mon accordéon, il est obligé de raconter une histoire, l'histoire du moment présent. Les gens sont là, je ne peux pas partir ailleurs, mon esprit ne peut pas partir. Il faut qu'il soit dans mon accordéon pour pouvoir raconter ces histoires-là. Et ça, pour moi, c'est... Et puis, je suis tout seul. Du coup, ce qui est bien, c'est que je peux jouer avec le silence. Le silence, je deviens comme un couturier du silence. J'ai du silence et puis je l'habille comme je veux. Je peux lui mettre un petit voile ou alors je peux y mettre un manteau vraiment épais. Je peux faire ce que je veux avec ce silence. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce rapport entre la musique et le silence. Là, en solo, je peux vraiment l'exprimer alors que j'ai plus de structure, j'ai plus de convention. Là, je suis tout seul. Je fais ce que je veux. Je peux m'arrêter de jouer, me mettre à danser. Ou m'arrêter de jouer, me mettre à raconter une histoire. C'est complètement ouvert, sans ennuyer les autres, sans partir ailleurs de ce qu'on avait décidé de
faire. Sans empiéter, oui.
Voilà, parce que quand on est dans un groupe, après, il faut que tout le monde s'exprime, il faut quand même faire une structure au départ. Enfin, voilà,
oui, il ne faut pas mettre les autres en inconfort.
Et puis, il ne voilà, faut pas les mettre à un moment où moi, je vais faire un truc qui n'était pas prévu, et puis qu'eux soient mal à l'aise, ne savent pas quoi faire. Ça, je comprends. Ça, je n'ai pas du tout envie de le faire. Je n'ai pas envie qu'on me le fasse, je n'ai pas envie de le faire non plus. Mais comme je suis en solo... Là, voilà, je peux me permettre plein de trucs et c'est super aussi. C'est une belle expérience avec l'instrument et puis surtout avec soi-même aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a à raconter ? Ok, on est musicien, on sait faire ceci, on sait faire cela, on sait chanter peut-être, on sait jouer de l'accordéon, mais qu'est-ce qu'on en fait tout ça ? Ça suffit pas de savoir d'avoir l'outil. C'est juste des outils. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cet outil ? Qu'est-ce qu'on sculpte ? Où est-ce qu'on amène l'esprit des gens ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Quelle interaction on a envie d'avoir ? Quelle émotion on a envie de déclencher ou pas ? Ou voilà, quoi.
Et le fait de cette proximité, quand tu dis j'aime, quand je suis seule à l'accordéon, j'aime jouer dans les petites salles, la proximité, c'est une proximité physique. Au travers de tout ce que tu dis, de toute façon, la peau et la résonance du corps est importante aussi.
Oui, je crois que ça, c'est mon côté autodidacte, justement, où j'ai pas appris la musique pour rejouer des morceaux. Je suis pas un interprète. Donc, en général, quand je joue, surtout en solo, c'est là que ça se sent le plus, c'est moi. C'est vraiment moi. Et ça, je l'ai pas compris tout de suite en solo. Au début, je pensais que c'était la musique. Je pensais que c'était la musique qu'il fallait...
Ça aussi, c'est une musique, mais bon, voilà, on n'avait pas fait, on n'est pas fait le deux.
Et voilà, c'est plus, on présente plus quelqu'un qui va raconter quelque chose en musique, ou alors ça peut être aussi un conteur qui va venir raconter des contes, un danseur et tout. Là, on présente une personne qui joue de la musique, qui joue de l'accordéon, qui chante. Et je ne l'ai pas compris tout de suite que le solo, c'était ça en vrai. Le solo, c'est vraiment, c'est basé sur la personnalité, pas forcément sur ce qu'on va jouer, sur la virtuosité, sur le genre musical qu'on va faire, c'est vraiment le personnage qui vient et qui donne son univers. C'est ça qui m'a intéressé aussi dans le second.
Oui, et que ça se passe effectivement pas seulement au niveau de la tête, mais vraiment au niveau des tripes. Et puis c'est la présence, on va dire que c'est un tout.
Mais on Alors, a besoin, oui.
La Napoli, c'est François Castiello au chant et à l'accordéon, Nicolas Lopez au violon, François Vinoche à la batterie, Julien Certin à l'accordéon, Thomas Garnier à la flûte, guitare et Ciaramella, alors tu vas nous dire ce que c'est,
ouais.
Et Maxime Oudry à la contrebasse.
Oui.
Alors autant, voilà, dans tous ceux qu'on vient de nommer, on les a déjà entendus dans d'autres projets aussi, on les a reçus ici, etc. Qu'est-ce que c'est que la Ciaramella ?
Alors, Ciaramella, c'est une espèce de... C'est un instrument qu'on a découvert avec l'Alana Lopelli à Napoli. Pardon, on est allé je crois que c'était en 2018, on est allé jouer à Naples, à côté de Naples, en tournée. Et après, on est allé en Calabre, dans un tout petit patelin à 1000 mètres d'altitude, où il y avait un festival de tarentelle, de musique, en tout cas calabraise, dans ce truc-là. On est resté 3 jours, on a dû dormir 3 heures. C'était génial. On a rencontré tous, on était tous, on n'avait pas envie d'aller se coucher, ça jouait tout le temps. Les petites 5-6 ans, les vieux, tout le monde jouait, dansait dans les rues. Voilà, quand ça finissait dans une ruelle, ça commençait dans l'autre. Un tout petit patelin comme ça accroché dans la montagne. Et là, il y avait des joueurs de. Ils jouent d'un instrument comme une espèce de bombarde, mais sauf qu'ils envoient l'air avec leurs bras, je sais pas comment. Le mot vient pas là, je retrouve pas.
Un
le
peu
mot,
comme ça. La cornemuse.
Voilà, un peu comme merci, un peu comme la cornemuse. Et là, il y a des espèces de flûtes, de bombardes quoi. Et c'est ça, la charamelle, c'est une des bombardes de ces cornemuses calabraises. Et donc, avec Tom, on s'est dit, ce serait bien d'essayer de... Comme lui, Tom, c'est le flûtiste, il connaît un petit peu ces instruments-là. On s'est dit, ce serait bien d'essayer d'amener ça dans la Napoli. Alors, il a galéré, parce que c'est un instrument, c'est injouable. C'est dur d'être juste, il faut souffler comme un malade. Et puis, des fois, sur scène, ça ne marchait pas, ça faisait... Bon. Et puis, petit à petit, en s'accrochant, ça a commencé à le faire. Et voilà, on a amené ce nouvel instrument-là qui donne vraiment, pour le coup, une couleur vraiment étrange à ce morceau qu'on joue qui s'appelle Abracalabria, justement, qui a été écrit par la musique par Julien Certin, et moi j'ai écrit les paroles. Voilà, ça c'est
alors la Napoli, comme son nom l'indique, Napoli,
c'est la voilà. c'est pour dire chanter, quand on dit la c'est on chante quoi, et puis Napoli, voilà, là c'est vraiment en international, ça peut se comprendre, c'est la Napoli. D'ailleurs, c'est Julien qui a trouvé le titre. On s'était mis ensemble, on dit comment on va s'appeler et tout. Il y a plein de trucs. Puis à un moment, Julien, il fait pourquoi on ne s'appellerait pas la Napoli ? Et puis moi, j'ai dit ouais, c'est super. C'est super, c'est exactement ce qu'on fait. Ça va être autour de la chanson napolitaine. On va faire la sûrement. Et puis il y a aussi autre chose qui s'est passé avec. Ça, c'est super aussi d'avoir rencontré ces jeunes musiciens-là, hein, qui avaient déjà 10 ans de moins que maintenant. C'est qu'ils ont appris à chanter. Enfin, c'est pas moi qui leur ai appris, c'est moi qui leur ai montré comment on faisait, en tout cas, parce que quand je les ai rencontrés, ils ne chantaient pas. Et à un moment, je leur ai demandé s'ils voulaient de temps en temps faire les chœurs avec moi sur certaines chansons. Et là, ils ont... Bon, au début, ça n'a pas été facile. C'est jamais facile de chanter en groupe. Mm-hmm. Et en plus, ils n'avaient jamais chanté vraiment sur scène.
C'est jamais facile de sortir la voix quand on...
De sortir la voix quand on n'a pas l'habitude. Eux, ils ne l'avaient jamais fait vraiment. Et là, on s'est mis à travailler un peu le chant. Et puis maintenant, je suis obligé de leur dire non, mais là, il faut que je chante tout seul un petit peu. Parce que... et puis maintenant, ils chantent de mieux en mieux. C'est génial. Quand on se met à chanter tous les 6 avec nos voix là, c'est kiffant pour moi, et puis je sens que pour le public aussi quoi,
c'est très fort,
c'est fort, il y a des voix comme ça, mais au début je chantais pas, et ça je suis content de leur avoir amené ça, parce que ça va leur servir dans leur carrière par la suite d'avoir appris à sortir la voix d'une manière ou d'une autre. Ça c'est un gros plaisir.
Alors, si vous avez... Voilà, n'hésitez pas à aller sur n'importe quelle plateforme, à aller acheter l'album. L'album, c'est Cavalluccio, c'est le dernier album de la Napoli. Je précise une petite chose, c'est qu'il y a des visuels absolument magnifiques. Et là, depuis le début, un grand coup de chapeau à la personne qui fait les visuels.
C'est Yanis Frier.
Parce que c'est vraiment très, 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 voilà. Très beau.
Yanis Frier qui a fait tout ça, qui est quelqu'un qui habite à Saillant.
Donc chapeau à lui. Allez voir, malheureusement on manque de temps comme d'habitude, ouais. Et puis surtout quand on est avec des gens passionnants comme ça. Donc on arrive à la fin de notre rencontre. Vous retrouvez François le 20 novembre donc à la médiathèque Simone de Beauvoir en solo. Et la Napoli, il faudra attendre un petit peu, il faut attendre 2022, oui. Mais c'est promis, on vous tiendra au courant de toute façon, et d'ici là allez plonger dans l'univers. On mettra les liens aussi sur le site internet, bien évidemment. On va se quitter avec un dernier extrait de cet album. Alors, je vais te laisser dire le titre, parce que je le dirai pas forcément bien.
Merci, Sylvie. Et alors, la chanson s'appelle « O soldat inamorat », c'est le soldat amoureux. Voilà, c'est un, si j'ai le temps juste de dire ce que c'est. C'est un poète qui a retrouvé une lettre d'un jeune soldat, ça se passe après la Première Guerre mondiale, donc, où ce soldat, il écrit à sa fiancée en lui disant « t'as été mon premier amour, tu seras mon dernier ». Mais ça, c'est des serments, des fois, qu'on dit à 18 ans et puis qu'on oublie après. Sauf que lui, il voyait tous ses copains allongés dans les tranchées, sans vie, et il savait très bien qu'il ne retournerait pas la voir. Et donc, il lui dit ça, et il lui écrit cette chanson-là en lui disant « t'as été mon premier, t'as été mon dernier amour ». Il le sait qu'il ne la reverra pas, mais il a une dernière... Il donne tout cet amour dans cette chanson, dans cette lettre. Il y a un poète qui a trouvé cette lettre et qui en a fait une chanson. Voilà.
Et qui est quand même, il faut le dire, pour la petite histoire...
Et qui est pour la petite histoire, qui est l'hymne, alors ça je ne sais pas par quel biais, de l'équipe de foot napolitaine, parce que quand on écoute les matchs et tout, ils chantent « Oi vita », mais ils chantent cette chanson-là avec beaucoup de joie, alors qu'en vrai, moi la version que j'ai faite, c'est j'ai essayé de revenir à la version originale, en tout cas de ce que veulent dire les paroles, c'est pas très drôle, c'est beau, parce que c'est une chanson d'amour, mais voilà, quelque part à 18-19 ans, on a plutôt envie de vivre notre amour plutôt que de sentir qu'on va bientôt disparaître. C'est plus dans l'ordre des choses que de se dire demain je serai plus là, mais mon amour, qu'est-ce qui va devenir, quoi, c'est dommage.
Mais c'est aussi l'âme, on parle de l'âme slave, mais l'âme latine finalement,
au bout d'un moment, j'ai trouvé tellement de correspondances que je me suis dit tout ça, c'est l'être humain, c'est la musique. Il n'y a pas de frontières, ça n'existe pas tout ça pour la musique. La musique se passe complètement de frontières, et ça, je l'ai vraiment touché, expérimenté dans ma vie, quoi.
Merci beaucoup François de ce temps avec nous. Et puis n'hésitez pas vraiment, allez, j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller découvrir, et puis de toute façon en général aiguiser vos curiosités. Au revoir, on se termine, on se quitte donc avec O soldate inamorat.
Stai lontano da sto cor. A te volo co pensier, niente voglio, niente spero, da tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro è chi sta amore, mi so sicuro te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si sta, o prima amore. O prima e l'ultimo sarai per me. Quanta notte non ti vedi, non ti senti in tasti bracci. Non te vas a questa faccia, non te stregno forte un braccio a me. Ma se ne mosti scuola, me fai chiagnare per te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si sta, o prima amore, o prima l'ultima sarai. Sempre sta contento, io non penso che te sole, tu
tu pensiero mi consola, quando tu pienso solamente a me, a chi belle tutte belle. Chi stu cuore si stato o prima amore o prima l'ultimo sarai per me.
Continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.